Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je réponds à la question d'une auditrice. Elle me demande « Je suis apprentie développeuse dans le sens où je travaille en tant que développeuse mid-level et j'aspire à devenir artisan sans y être tout à fait. Mon problème est le suivant. En sortie d'école, je travaillais dans une petite entreprise où j'étais la seule développeuse. J'ai quitté mon travail pour aller dans une grande entreprise où je pensais qu'on me formerait, mais c'est très compliqué, on ne le fait pas. On attend de moi que je m'auto-forme, que je sache tout sur tout et que je travaille rapidement avec de hauts standards de qualité, le tout sans que je n'ai jamais appris à apprendre et sans que je n'ai jamais été mentoré par quelqu'un de plus senior. J'ai peur que cela soit une spirale sans fin et j'ai peur de me retrouver dans 5 ans développeur senior en ayant le même niveau qu'une personne qui vient de débarquer dans le métier. C'est contre mes principes parce que je suis perfectionniste dans la vraie vie. Aurais-tu des conseils pour moi ? Alors tout d'abord, ce que je voudrais te dire, c'est bravo. Bravo d'en prendre conscience, bravo d'avoir envie d'agir et bravo de demander de l'aide. Waouh, ça fait beaucoup quand même. D'en prendre conscience parce que je vois plein de gens qui n'ont même pas conscience de ça. Parce qu'ils commencent à accumuler de l'expérience, ils ont l'impression au bout de 4 ans, 5 ans qu'ils sont devenus experts. En même temps, on les vend parfois comme tels, donc ça aide pas à se rendre compte que c'est pas parce que tu as 5 ans, tu as passé 5 ans à faire la même chose de la même manière que tu es devenu expert. Ça veut juste dire que tu as travaillé pendant 5 ans. Bravo d'agir parce que ça montre que tu as envie de te mettre en mouvement et bravo de demander de l'aide parce que c'est souvent difficile à faire et les gens ne demandent pas de l'aide alors que pourtant c'est pas très compliqué. Tu vois, il suffit. D'ailleurs, si toi aussi tu te poses des questions, tu m'envoies un email question@artisandeveloppeur.fr et ça me donnera peut-être le sujet du prochain podcast. Je te remercie d'avance. Alors, d'abord, ce que j'aimerais te dire, c'est le premier point. Je vais te poser une question un peu pernicieuse peut-être, mais est-ce vraiment le rôle de ta boîte de se préoccuper de ta formation ? Ok, je vais peut-être en choquer certains, mais ça va être un petit peu la ligne directrice qui m'amène dans ce que je vais te dire. Ta formation, c'est ton employabilité. Ne laisse personne d'autre que toi s'occuper de ça. Alors, je ne dis pas que l'entreprise n'a pas un rôle à jouer. Bien évidemment qu'elle a un rôle à jouer. Mais ça reste à toi d'avoir le leadership. Ça reste à toi de te préoccuper de ça avant tout. Parce que si on regarde bien, pourquoi est-ce qu'une boîte va s'occuper de ta formation ? Pas parce qu'elle t'aime. Une personne morale n'a pas d'émotion. Parce qu'il y a une logique économique. Alors, je suis pas en train de me pointer du doigt en disant « Ouh, bouh, les vilaines entreprises !» Non, pas du tout. Il y a une logique économique, c'est tout, c'est la règle. Si tu veux faire de la couture ou de la maçonnerie, bon bah, je pense que les gens de ta boîte seront contents pour toi. Mais si tu es dans l'informatique, probablement que ça va pas trop les intéresser ou en tout cas que ça va pas t'apporter, ça va pas apporter de valeur, de richesse économique à l'entreprise, de potentiel. Par contre, si tu amènes des valeurs, des compétences, tu amènes de la valeur et au travers de nouvelles compétences qui vont permettre à ton entreprise de consolider une expertise, d'ouvrir de nouveaux marchés, d'aller conquérir des clients, de fidéliser des clients. Là oui, c'est gagnant pour elle, donc c'est gagnant pour toi, c'est gagnant pour tout le monde. Ça peut être vraiment, sincèrement, ça peut être gagnant-gagnant si c'est fait intelligemment. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas intelligent. Et c'est à toi de protéger tes intérêts. Parce que l'intérêt économique d'une entreprise, enfin l'intérêt d'une entreprise, je te l'ai dit, c'est économique. Donc tant que tu rapportes, tout va bien, d'une manière ou d'une autre, que tu sois vendu au travers de ton travail directement dans société de service, que tu sois vendu indirectement dans un produit que tu fabriques. Réfléchis à ceux qui ont fait du COBOL pendant 20 ou 30 ans, où ils ont servi loyalement leur entreprise pendant 20 ou 30 ans. Il se passe quoi après ? Bon, alors tu vas me dire aujourd'hui, des gars qui font du COBOL, c'est peut-être un mauvais exemple, on en cherche parce qu'il n'y en a plus beaucoup, certes. Mais imagine, je sais pas, je vais prendre un autre exemple, que tu aies fait pendant 5 ans du Angular 1. Comment tu vas faire aujourd'hui si tu t'es pas mis à jour ? Tu vois bien que à un moment donné, les intérêts peuvent dévier. Toi, ton intérêt, l'important pour toi, c'est de t'assurer que tu restes employable. C'est ça la vraie garantie de ton employabilité de demain, c'est ta formation, c'est pas un CDI, c'est est-ce que tu es capable de bouger, est-ce que tu es capable d'aller ouvrir de nouveaux horizons. En société de service, c'est encore pire parce que le temps de formation, il faut pas oublier que dans le temps de formation, il y a un double coût. Il y a le coût direct de la formation. Dire tu vas aller acheter des ressources pour former, te former ou former les gars de ton équipe. Mais tu as aussi, et surtout, j'ai envie de te dire, le temps que tu passes en formation, c'est du temps non facturable. Donc, dans beaucoup de SS2I, de sociétés de services, de SN, si on t'envoie en formation, c'est que ça sent le sapin. C'est que c'est rarement bon signe, parce que ça veut dire qu'il y en a intercontrat. Et si tu en intercontrat trop longtemps, ben, c'est pas bon quand même, globalement. En société qui, de produits, des pure players, bon, eux, ils peuvent penser à plus long terme. Mais ça coûte cher quand même. Donc, n'oublie pas que c'est à toi de t'en préoccuper. Souviens-toi que c'est aussi un vrai investissement pour ta boîte. Donc, c'est à toi de prendre l'initiative et de proposer des choses intelligentes et gagnant-gagnant. D'ailleurs, t'as plein de boîtes qui ont compris que c'était important, que c'était un vrai investissement, mais d'autres pas. Donc, c'est à toi de prendre l'initiative. Quoi qu'il en soit, pour toi, ta formation, c'est ton employabilité. Ne laisse personne s'en occuper à ta place. Alors maintenant, pour répondre à ta question, parce qu'à un moment donné, il faudra que je réponde. Moi, je te propose trois axes. Premier axe, éveille ta curiosité. Deuxième axe, forme-toi. Troisième axe, partage. Premier axe, éveille la curiosité. Tu as trois manières de le faire. Moi, je vois trois manières. Tu peux aller aux conférences, que ce soit des conférences physiques ou en ligne. C'est souvent gratuit ou pas très cher. Ce que je trouve paradoxal avec les conférences, c'est que j'écoute plus de confs quand j'y vais en physique que au travers des confs qui sont enregistrés en ligne. Bon, je pense que ça doit être lié au fait de dire bon bah une fois que j'ai balisé la journée pour aller à une conf, bah une fois que j'y suis, ben bah, j'en profite au maximum. Donc se caler une à deux confs par an, c'est vraiment un super outil pour se former. Il y a des confs qui sont de vraies formations gratuites, gratuites ou pas chères, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, en dehors des confs, moi je te recommande d'écouter des podcasts. Il y a quelques podcasts sur le développement, que ce soit en anglophone ou en francophone. Si tu ne connais pas, c'est le moment de t'y mettre. Évidemment, je vais te parler du podcast que j'anime, qui est quasi quotidien. Tu cherches dans iTunes, SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Artisan Développeur, et j'y parle de notre métier de développeur. Mais c'est pas le seul podcast. Tu vas en trouver plein d'autres, souvent plutôt typés par techno. Le plus ancien, le plus connu, c'est probablement les Cascodeurs, qui parlent essentiellement de Java, mais pas que. Ils ont une certaine ouverture, notamment dans la section news, que je trouve intéressante. Ce que je trouve super avec le podcast, c'est que c'est facile à écouter, ça se passe bien, c'est dans les transports. C'est pratique pour amortir les temps morts, en fait. Et moi, j'ai voulu faire des podcasts courts, 10 minutes maximum, pour vraiment pour trouver un bon compromis entre apporter quelque chose, donner envie d'aller plus loin et se laisser un petit peu le temps de développer sans que ça prenne trop de temps. Parce que franchement, des vrais confs en ligne, des confs de 3/4 d'heure, 1 heure, personnellement, j'ai beaucoup de mal à les caler dans l'agenda. Il faut vraiment que je me dise « Ok, là, tu balises du temps, limite que je prenne un rendez-vous pour arriver à le caler dans la journée, sinon je le fais pas. » Donc c'est pour ça que le podcast, c'est quelque chose de plus léger. Troisièmement, pour éveiller ta curiosité, organise une veille efficace. Soit tu utilises un lecteur de flux RSS comme Feedly pour agréger tes sites préférés si tu as plusieurs sites, soit tu n'as pas encore repéré de site et tu vas sur un site comme le site des Human Coders News qui te sélectionne tout un ensemble de ressources super intéressantes. Il y a un premier niveau de filtrage qui est fait et j'aime beaucoup ce site. Donc je te recommande, si tu n'as pas de point de départ, d'aller là-bas. En plus, c'est essentiellement des ressources francophones. Ça peut aider au départ à mettre un pied à l'étrier. Et repérer potentiellement des sources qui t'intéressent et un jour après les agréger, vraiment faire sur mesure dans un Feedly ou dans un autre flux RSS. Voilà, ça c'était le premier point. Éveille ta curiosité, va voir ce qui se fait ailleurs, regarde ce qui se fait autour de toi. Je pense que c'est le point de départ parce que c'est ce qui donne envie d'aller au-delà. Deuxième morceau, forme-toi. Passe à quelque chose de plus actif qui demande plus d'investissement. Alors, tu as trois types de formations. Tu as le format traditionnel, où tu bookes des journées de formation. Tu réserves dans ton agenda des journées de formation. D'abord, si tu es dans une grosse boîte, cherche en interne. Tu verras, il y a probablement des choses, probablement des gens qui animent des sessions, que ce soit des sessions d'une journée, d'une demi-journée, des retours d'expérience. Tu as certainement des choses qui se passent déjà en interne. Regarde, parce que ça, c'est assez facile à caser. Pas très difficile, tu n'as même pas besoin de demander au RH, c'est assez facile à faire passer auprès du manager. C'est aussi une manière de faire vivre la boîte de l'intérieur. C'est souvent bien perçu. Voilà. Donc, si tu as ce genre de choses, profites-en. Ensuite, cherche en externe et va utiliser ton budget formation. Là, faut négocier avec la RH, avec ton patron, selon la taille de la boîte ou de l'agence. Mais en tout cas, voilà, tu as ce levier-là. Va utiliser ce levier pour te former sur des formats traditionnels de quelques jours où tu es dans une salle avec un formateur et ça te permet d'aller acquérir de nouvelles compétences. Deuxième format que je te recommande, le format livre, c'est redoutablement efficace, probablement un petit peu passé de mode, mais moi je trouve que c'est efficace parce que dans un livre, en général, l'auteur a fait un effort de pédagogie, il a fait l'effort de construire quelque chose de cohérent, et ça t'amène un certain niveau de compétences que je trouve super intéressant. Cherche de bons livres, demande autour de toi les livres à lire, demande conseils, et je te recommande d'aller lire des livres en fonction des enjeux du moment. Regarde de quoi tu as besoin en ce moment, ça t'aidera à trouver la motivation d'aller creuser et de prendre le temps de lire le livre. Tu vois, par exemple, à titre personnel, je réfléchis beaucoup, on a un projet qui va nous amener enfin à sortir du monolithe parce que je trouve que c'est un pattern d'architecture redoutablement efficace. On commence à se poser des questions sur le microservice. En ce moment, je lis des bouquins sur les microservices parce que je trouve ça super intéressant et je vais piocher au fur et à mesure de mes problèmes techniques les solutions dans les bouquins que j'ai repérés. Attention, c'est un gros investissement. Un livre, c'est assez dense, assez trapu, mais ça apporte en général des compétences assez solides. Donc, c'est vraiment intéressant. Le plus difficile, ça va être pour toi d'avoir la rigueur de te mettre au travail, de prendre du temps pour le faire de manière régulière. Vois avec ton boss, je suis quasiment sûr qu'il va accepter que tu prennes une demi-heure, une heure par jour pour t'intéresser à ces sujets-là, au pire 2 heures par semaine. Et sinon, fais-le chez toi. Ne laisse personne te priver de ces choses-là. Troisièmement, tu peux suivre des cours en ligne. L'avantage des cours en ligne, c'est que c'est toi qui décides du rythme auquel tu le consommes. Après, c'est le piège, c'est le même qu'un livre. C'est pas parce que tu l'as acheté qu'il va se diffuser au travers de toi. Il faut prendre le temps de l'étudier. Là, tu peux venir te former dans la maison des compagnons sur maison.artisandeveloppeur.fr où j'axe les modules de formation vraiment sur le métier de développeur, ce que j'appelle les compétences profondes. Mais si tu cherches aussi des formations sur les technos, tu as plein d'autres endroits sur Udemy, sur Open Classroom. Tu as une offre qui est pléthorique. Tu commences à trouver des choses intéressantes en langue francophone. Bref, pour un budget minimum, c'est redoutablement efficace. Pour moi, les cours en ligne, c'est vraiment un des piliers de la formation continue des développeurs. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille là-dessus. Mais ça demande du temps et de la rigueur. Troisième section, partager. Partager, d'abord partager entre tes pairs, au bureau, que ce soit à la machine à café, que ce soit en binomage. Partager, échanger. Tiens, toi, tu fais ça comme ci, toi, tu fais ça comme ça. Ah, ça m'intéresse, voilà, j'ai tel souci, qu'est-ce que tu en penses? Faire relire un bout de code. Avoir un regard neuf sur un bout de code qu'on vient d'écrire, c'est toujours super intéressant. Je te parle pas de la revue, je te parle de le faire en direct. Évidemment, la revue, ça l'est aussi. Partage aussi avec tes pairs au meet-up de ton coin. Cherche sur meet-up quels sont les événements qui se passent autour de toi. Et même si c'est pas forcément dans la techno directement qui te concerne, intéresse-toi, va jeter un œil. Tu y rencontreras probablement des gens intéressants. Deuxième manière de partager, écris. Écrire a une double fonction super intéressante. D'abord, évidemment, tu partages ce que tu as acquis avec les autres. Mais surtout, le premier intérêt, c'est que pour toi, ça t'oblige à reformuler et ça vient conforter l'assimilation. Alors, tu peux soit lancer un blog, mais ça demande beaucoup d'énergie, de la continuité. Et je vois beaucoup de développeurs qui ont parfois envie d'écrire un article ou deux, pas forcément de maintenir un blog et d'avoir un rythme d'écriture soutenu. Donc là, le meilleur conseil que je puisse avoir pour toi, c'est fais une soumission d'article à un blog existant qui a déjà du trafic. Ça t'amènera comme ça une certaine audience et tu pourras partager ton idée avec un maximum de monde. Si tu as envie de participer à Artisan Développeur, ça sera avec grand plaisir. On a déjà deux contributeurs qui ont fait parfois plusieurs contributions. Sinon, tu vas trouver d'autres blogs. Là aussi, je te renvoie vers Human Coders, qui est un blog que j'aime beaucoup. Ou alors tu peux aller chercher sur d'autres sites spécialisés. Quelqu'un qui tient un blog appréciera en général et verra d'un assez bon œil une proposition de contribution. Et dernièrement, dans le partage, devient orateur à une conf. Ça, pour moi, c'est vraiment important et super formateur. Il y a probablement une conf pas très loin de chez toi. Propose un sujet. Demande à ta boîte de pouvoir y aller. En général, les boîtes vont être sensibles à l'image que tu vas diffuser. Tu vas travailler indirectement la marque employeur. Peut-être même que indirectement aussi, tu vas trouver des prospects potentiels pour ta boîte dans ta conf, selon le type de produit que tu vends ou le type de prestation que tu vends. En général, c'est bien perçu et ta boîte devrait te donner le temps d'y aller. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu prends sur ton temps de vacances et tu y vas. Tu sors de ta zone de confort et tu verras, c'est super enrichissant. Voilà, du coup, j'ai un peu explosé la timebox. J'espère que tu y trouveras des éléments. En tout cas, tu l'auras compris. Ça dépend essentiellement de toi, de l'énergie que tu vas y mettre, de la détermination que tu vas y mettre. Ne laisse personne s'occuper de ta formation à ta place. Je te remercie en tout cas de nous avoir donné le sujet du jour et je te donne rendez-vous demain sur le blog, le podcast ou ailleurs.